Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Dites 33, 33 comme 33e jour de grève dans les transports aujourd'hui en France, le plus long conflit du genre dans l'histoire de la SNCF. Après les fêtes de fin d'année, la plupart des Français sont de retour de congé et même s'il y a une légère amélioration dans le trafic ferroviaire et dans les transports publics parisiens, aucun progrès n'a eu lieu dans le bras de fer entre l'exécutif et les grévistes. La semaine pourrait néanmoins être décisive avec des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux demain, une journée d'action jeudi et une autre samedi. On entend quelques voix commencer à évoquer l'après. Grève des retraites, à quand le bout du tunnel? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Frédéric Savicky, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de la rédaction de Politics, qui est une revue des sciences sociales du politique. Et Arnaud Mercier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en communication à l'Institut français de presse, qui dépend de l'université Panthéon-Assas, spécialiste en communication politique et auteur de la communication politique aux éditions du CNRS. Alors c'est long pour tout le monde, pour les usagers des transports, pour les grévistes aussi, ça coûte cher, l'exécutif, les organisations syndicales, et pourtant tout le monde est resté jusque-là campé sur ses positions. Qu'en pensez-vous, Frédéric Savicky?
Bah, écoutez, quand on a entendu Emmanuel Macron lors des vœux, on n'a pas véritablement entendu une parole, pour dire, d'apaisement ou d'ouverture à des négociations, puisqu'il a réaffirmé à la fois la nécessité d'une réforme de la retraite par points et le maintien de l'âge pivot, qui sont quand même les deux éléments centraux de la contestation. Donc, on voit pas très très bien pour l'instant où on va. Il y a des négociations parallèles qui ont été menées avec des professions, avec des secteurs professionnels avec des concessions quand même assez importantes. Donc on a l'impression que l'espoir du gouvernement, c'est au fond d'isoler les cheminots et les salariés de la RATP. Mais comme il se trouve que c'est quand même eux qui ont le pouvoir, la capacité de blocage, de nuisance la plus importante, on voit pas très très bien ce qui fera, on pourrait dire, arrêter le mouvement de contestation qui risque en plus de repartir de plus belle avec notamment, pour la première fois depuis le début du mouvement, hein, une manifestation samedi prochain qui permettra de vérifier aussi dans quelle mesure des salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève pour diverses raisons se joignent à ce moment-là à la mobilisation. Donc ce sera un test assez important de la détermination finalement des contestataires.
Alors c'est long pour les usagers, ça évidemment on l'a bien compris, mais c'est aussi long pour ceux qui exercent leur droit de grève, hein, car ils ne sont pas payés du tout. Arnaud Mercier, est-ce qu'ils peuvent tenir encore longtemps? Est-ce qu'ils sont encore motivés, selon vous?
Oh, la motivation, personne n'en doute, hein. Elle est réaffirmée constamment sur les piquets de grève et ailleurs. Le fait est qu'ils ont mis en place des appels à cagnotte et il y a eu un peu d'argent de récolté, donc il y a un vrai soutien, puisque c'est une grève qui est quand même largement soutenue dans une partie de l'opinion publique. Il y a aussi une forme de de grève par dérogation et donc de soutien, y compris parfois financier. Donc ils ont quelques réserves, on va dire.
Oui, on est toujours dans le cadre d'une grève par procuration, si je peux dire ça comme
oui,
ça.
Oui, on disait ça
en 95.
Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. On le dit, on entend des gens le dire. Moi, je peux pas me permettre, mais je les soutiens parce que, justement, eux, ils peuvent peut-être faire flancher le gouvernement. Mais c'est vrai que on peut se demander, et ça ne serait pas la première fois, si le gouvernement n'a pas choisi, en effet, une forme de pourrissement, c'est-à-dire d'essayer de rester ferme le plus longtemps possible pour voir un peu les gens s'affaiblir à force de pouvoir devoir faire des sacrifices.
Oui, Frédéric Savicky, selon vous, le gouvernement joue l'épreuve de force, montrer qui est le patron, qui montrer les muscles, ou est-ce qu'il joue tout simplement l'usure en espérant passer à l'usure, quoi, tout simplement?
Bah, écoutez, les deux sont pas incompatibles. Bon, Emmanuel Macron est persuadé depuis longtemps, hein, que ce qui a fait perdre ses prédécesseurs, les présidents précédents, c'est qu'ils n'ont pas osé faire des vraies réformes, des réformes structurelles. Et donc, il est persuadé qu'ils ils ont été battus là-dessus. Donc cette croyance, qui est une croyance un peu magique, hein, rien ne dit que sa stratégie à lui sera payante.
Il y a beaucoup d'idéologie,
voilà, il y a beaucoup de croyances, d'idéologie là-dessus, que la fermeté va finir par payer. Donc tant qu'il est persuadé de ça, tant aussi que l'électorat le plus à droite, hein, qui est maintenant aussi celui qui vote le plus pour Emmanuel Macron, manifeste son soutien, parce que c'est bien beau de constater que la majorité dans l'opinion est hostile à la réforme, et en particulier à la question de l'âge pivot. Mais il se trouve quand même que l'électorat âgé, le plus aisé, les cadres supérieurs malgré tout, continuent de manifester,
aussi,
voilà, voilà, de soutenir. Donc c'est vrai qu'il y a un noyau dur électoral qui reste malgré tout assez fidèle au gouvernement. Donc il y a aussi une part de calcul là-dedans. Et puis peut-être aussi l'autre calcul, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va céder aux enseignants, on a cédé déjà aux contrôleurs aériens, aux chauffeurs routiers, que par ces petites, pourrait dire, concessions, on va isoler et affaiblir la mobilisation. Moi, je crois qu'on va plutôt la radicaliser et qu'il faudra au bout du compte, quoi qu'il se passe, faire une concession importante. Sinon, effectivement, je pense que cette stratégie justement du pourrissement va se retourner contre le gouvernement.
Arnaud, merci. On va revenir sur cette bataille de l'opinion que vous évoquiez tous les deux. Est-ce qu'on peut désigner un vainqueur, là, maintenant, au 33e jour de grève, ou est-ce que les positions sont à peu près figées et ça bouge plus tellement?
Non, je crois pas que pour l'instant il y ait de vainqueur. Chacun est persuadé dans sa stratégie que c'est en poursuivant comme il le fait qu'il sera vainqueur à la fin. Donc pour l'instant, il n'y a pas de point de rencontre possible. Effectivement, moi je crois que ce qui est très important, c'est que du côté du gouvernement, du côté d'Emmanuel Macron, il y a un calcul en effet politique, et on le voit bien à travers la politique qui a été menée, et cette réforme devient une espèce de symbole, hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du symbolique maintenant, du symbolique politique, c'est que il veut définitivement asseoir son assise sur l'électorat traditionnel de droite, on va dire, et une partie donc de l'électorat Fillon, hein, de la présidentielle, parce qu'il est persuadé visiblement dans son calcul que si il solidifie cette part de l'électorat de droite, ensuite il pourra passer au second tour de la prochaine, puisqu'évidemment il ne pense qu'à une chose, c'est à sa réélection, et il sera face sans doute à Marine Le Pen, en tout cas c'est comme ça qu'il le pense, et que du coup les électeurs, on va dire, de gauche, centre-gauche, seront bien obligés une fois de plus de voter pour lui. Et je pense qu'il y a ce calcul là qui fait que peu importe aujourd'hui si on indispose une bonne partie de l'électorat de gauche et de centre-gauche, y compris par exemple la CFDT, hein, social-démocrate, parce que l'important pour lui, visiblement, c'est que ça se joue à droite, et quand il aura le cœur de l'électorat centriste et de droite, pour lui, il passe au second tour, donc il sera requalifié pour un deuxième mandat. Je crois que c'est vraiment son calcul qu'il y a derrière.
Alors, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, dit qu'en n'écoutant pas ceux qui veulent le retrait du projet, l'exécutif joue avec le feu sur la future échéance électorale. Qu'est-ce que ça peut être, les conséquences électorales à court et à moyen terme, selon vous, Frédéric Savicky? Est-ce qu'on vise d'ailleurs plutôt le moyen terme et la prochaine présidentielle, là, où on parle des municipales?
Il y a deux semaines, j'avais déjà eu le plaisir de participer à cette émission, et j'avais pointé le fait qu'une des, un des effets, quand même, de cette mobilisation sur le moyen terme, c'est quand même que la question des retraites et de la réforme des retraites va être mise au cœur de l'agenda électoral pour l'élection présidentielle à venir. Pourquoi ? Parce que une partie quand même importante des dispositions sont destinées à s'appliquer à partir de 2022 et ensuite en 2025. Et donc on voit bien que pour les adversaires d'Emmanuel Macron, la question de faut-il ou non maintenir cette réforme va être évidemment un élément très très important de distinction, de démarcation par rapport au pouvoir. Donc effectivement, là il joue quand même très très gros, parce que même si la réforme devait passer, on pourrait dire, au forceps, à l'Assemblée nationale et au Parlement, au bout du compte, l'opposition de droite, d'ailleurs, rappelons quand même que les Républicains sont hostiles à la réforme par point, comme de gauche, comme celle du Rassemblement national, va se focaliser sur cette question des retraites, et ça va véritablement, d'une certaine façon, polluer peut-être même pourrir la fin de son quinquennat. Donc là, je pense quand même que il y a un calcul. Enfin, pour reprendre le raisonnement d'Arnaud Mercier, il y a effectivement un calcul, mais un calcul qui est quand même dans des conditions d'incertitude assez maximales sur le fait qu'au bout du compte, quand même, que les Français trouveront que cette réforme n'a pas été correctement négociée, qu'elle n'a pas été correctement préparée, qu'elle n'a pas correctement été débattue. Il y a un contraste d'ailleurs terrible avec la manière dont finalement le gouvernement organise sur la question de la transition énergétique et du changement climatique un grand débat avec un panel de Français, leur laissant le temps de réfléchir, de consulter les experts. Et puis de l'autre, cette réforme imposée au forceps, absolument pas négociée avec les organisations syndicales, y compris celles qui étaient les plus promptes, on pourrait dire, à rentrer dans le jeu des négociations. Et au bout du compte, ça risque quand même effectivement de ternir considérablement cette image d'un président finalement qui ne remplit pas ce rôle que beaucoup attendent, qui est aussi un rôle de fédérateur. Voilà.
Alors, c'est un pari aléatoire, mais qui est lié aussi au fait que Emmanuel Macron et son entourage sont persuadés qu'il n'y a personne en face, à gauche, pour incarner ça. C'est-à-dire que, comme ils ont l'impression qu'il y a un vide...
Personne ou beaucoup de monde, en l'occurrence.
Ou trop de monde.
Frédéric Savicky, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de radicalisation. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que bon, on entend dire, on lit partout, que ça commence à être long, qu'il va falloir trouver une solution, mais est-ce qu'on peut imaginer un élargissement du mouvement? Est-ce qu'on peut imaginer une grève générale dans ce pays?
Ah, écoutez, alors là, pour le coup, ce serait une première depuis mai 1968. Hein, là, on voit que la prochaine étape, et c'est ce qui va peut-être permettre aux cheminots et autres employés de la RATP de souffler, c'est peut-être un blocage des raffineries, hein, qui sont déjà produits par le passé. Une extension vers le privé, c'est compliqué, dans la mesure où beaucoup aujourd'hui de salariés français travaillent dans des petites, ou dans des moyennes structures où il n'est pas forcément facile de se mettre en grève. Moi, je crois plus éventuellement à l'organisation de grandes manifestations, de grands rassemblements, le week-end, par exemple le samedi. On avait vu que pour les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui avait été assez ritualisé. Pourquoi pas, effectivement, à ce moment-là, un rassemblement visant à rejeter, en quelque sorte, l'essentiel de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, je ne crois pas, pour l'instant, à une grève générale. En même temps, je ne crois pas non plus, évidemment, dans le fait que le mouvement, à brève échéance, puisse refluer. Il va prendre des formes sans doute différentes, mais la contestation demeure. Les sondages montrent, d'ailleurs, y compris chez des électeurs proches, qui se disent proches de la République en marche, à peu près 40% aujourd'hui qui se disent hostiles, par exemple, à cette idée de retraite pivot, couperet, à 64 ans, avec des cotes pour tous ceux qui
n'auraient pas les élections. Des cotes avant, sur cotes éventuelles
après.
Donc,
on voit bien quand même que là, le mécontentement est quand même très profond, puisque si on ajoute tout ça, c'est à peu près 3/4 des Français qui rejettent la réforme telle qu'elle est.
Radicalisation, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Arnaud Mercier. Quelle séquelle, quelle trace ça peut laisser à long terme? Est-ce que l'opinion peut se retrouver polarisée très fortement d'ici à 2022.
Écoutez, dans l'idée de radicalisation, il y a quand même l'idée que ça concerne largement une minorité. Parce que le passage à l'acte dans des choses très radicales, de fortes contestations, voire de violences, etc., politiques, concerne toujours une minorité de gens. Donc oui, ça peut. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, chez certains Gilets jaunes. Oui, il peut y avoir des formes de radicalisation chez certains qui désespèrent d'avoir eu le sentiment de n'avoir jamais été écoutés.
Le mouvement des Gilets jaunes a donné des idées aux syndicats qui ont vu que avec une mobilisation récurrente, on pouvait obtenir beaucoup. Les mesures ont coûté 10 milliards d'euros, je le rappelle.
Oui, oui.
C'est pour ça que je dis beaucoup.
C'est un peu vrai, puisqu'on a bien vu que, par exemple, effectivement, ils ont fait une manifestation le samedi et la CGT appelait à une convergence pour la première fois avec une manifestation de gilets jaunes. Donc, il peut y avoir effectivement des tentations de passerelles, etc. Mais je crois quand même que la sociologie de ces mouvements sont quand même très divergentes, très différentes, parfois divergentes. Et d'ailleurs, vous avez des gilets jaunes qui disent, mais attendez, vous vous occupez de la retraite, mais nous, c'est les fins de mois. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un tel sentiment de solidarité et d'imprégnation de chacun dans l'exemple de l'autre. Mais sur la radicalisation, je pense que oui, bien sûr, ça peut toujours conduire au désespoir, entre guillemets, et donc à la violence politique, certain. Mais ça restera une minorité. Et Effectivement.
La radicalisation, je peux pas être, elle peut être aussi politique et idéologique. Mm-hmm. C'est-à-dire que on l'a déjà vu très nettement d'ailleurs pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que la polarisation autour de la personne d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire rejet, mais vraiment.
La détestation.
Un rejet radical.
Absolument.
Hein, est-ce qu'on est détestation, une haine.
Est-ce qu'on est au-delà de la sarkozisation?
Bon, écoutez, on croyait déjà avoir atteint effectivement à ce moment-là une forte polarisation, mais le fait est que Sarkozy est toujours resté très populaire, on pourrait dire à droite au sens large du terme, y compris auprès de l'électorat du Rassemblement National. Là, en revanche, Emmanuel Macron cristallise contre lui un électorat très très large qui va aussi bien, on va dire, de l'extrême droite que de l'extrême gauche, mais aussi de gens qui sont, on pourrait dire, des modérés sociaux-démocrates qui considèrent effectivement qu'on a un président violent dans son comportement, qui refuse le dialogue, qui est dans une posture d'arrogance, qui est une posture de mépris social. Et tout ça, effectivement, fait que c'est la manière dont il gère ce mouvement, même s'il laisse son premier ministre en première ligne, risque effectivement de renforcer encore cette image d'un président jupitérien dans les nuages.
Et c'est un paradoxe, parce que une partie de cette réforme... à l'origine, intellectuellement, il est initié notamment dans la social-démocratie. Et il en a fait une réforme qui est perçue comme une réforme de droite. C'est ça qui est complètement fou.
Emmanuel Macron, absent, en dehors de ses vœux, qui ont duré 18 minutes. Peut-être vous aurez un avis en tant que communicant là-dessus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans ce dossier?
Bah, écoutez, il faut quand même dire que Emmanuel Macron a pris une grande claque avec les Gilets jaunes. Il a pris conscience, justement, de cette détestation, du fait qu'il était, lui qui se croyait, j'allais dire, irrésistible, il a pris conscience que finalement, sur sa personne, il cristallisait beaucoup de haine, de rejet, etc. Et donc, il a pris conscience que par rapport à cette réforme, il avait intérêt à rejouer finalement le bon vieux jeu de la Ve République où le Premier ministre sert de fusible pour le Président de la République et où, effectivement, on le voit, il a mis plus en avant le Premier ministre que d'habitude, tout en, lors de ses vœux, justement, assumant. Alors, une position qui était une position, à mon avis, en tant que communicant, spécialiste de communication, qui est intenable, parce qu'en réalité, il a dit à la fois, j'appelle le Premier ministre à essayer de trouver, donc il se mettait dans la posture du président qui arbitre un peu entre tout le monde, et en même temps, de l'autre côté, il dit, mais bon, il faudra la faire, et puis etc. Autrement dit, il a dit des choses très contradictoires dans son discours.
Frédéric Savicky, les pistes pour en sortir. Est-ce qu'il faut lâcher pour le gouvernement? C'est ce que vous dites depuis le début, en fait.
Non, mais ça dépend. Évidemment, le point de vue, on pourrait dire, de la raison. Moi, je considère, si vous voulez,
c'est être responsable à ce stade de lâcher sur.
C'est-à-dire que quand on fait une réforme qui va engager le pays et les Français, quasiment tous les Français sont concernés sur plusieurs générations, et qui est une réforme extrêmement, on pourrait dire, c'est pas une réforme ponctuelle, c'est pas une réforme, on dit structurelle, mais c'est bien plus qu'une réforme structurelle. C'est un changement de mode d'organisation de notre État social. Qui est là proposé. Il est clair que si vous faites une réforme comme ça, n'importe quel gouvernement qui fait une réforme comme ça ne peut la faire que s'il y a un minimum de consensus. Le consensus, il n'est pas donné, il se construit, il s'élabore et ensuite il faut une ratification populaire claire. Il suffit pas de dire Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ferait une réforme par point dans son programme et donc ça vaut quitus, c'est pas vrai. Cette réforme n'était pas détaillée, il y a des choses qui ont été ajoutées comme l'âge pivot qui n'y figurait pas. Donc je veux dire que la sagesse, ça serait peut-être pas d'abandonner les choses, c'est de se donner du temps et effectivement d'organiser mieux que ce n'a été fait dans l'année qui a précédé une véritable consultation, concertation et pourquoi pas par exemple s'inspirer de ce qui est fait en matière de transition énergétique. C'est-à-dire aussi mettre le CESE dans l'affaire, des citoyens, ouvrir la discussion et mettre tout sur la table pour qu'au moins il y ait un diagnostic partagé. Là, il n'y a même pas de diagnostic partagé. Beaucoup de gens vous disent qu'il n'y a pas d'urgence à faire cette réforme des retraites.
Si y en a une, c'est les municipales. C'est-à-dire que c'est là qu'on rejoint cette histoire de calcul. C'est-à-dire qu'on voit bien que le gouvernement met le pied sur l'accélérateur parce qu'il pense qu'il y a un calcul électoral derrière. C'est-à-dire la municipale qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour La République En Marche puisque ils ont très peu, en fait, d'assises locales, qu'ils font des alliances à géométrie variable en fonction des lieux. Et on voit bien que là, il y a cette idée pour eux qu'il y a urgence, mais une urgence politicienne, qui n'a rien à voir avec, évidemment, l'ampleur de la réforme.
Merci Arnaud Mercier, merci Frédéric Savicky d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lopage et Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité.